François.
Ce texte, en fait, c'est pas un scoop, qui fait suite à ce qui précède, que vous avez déjà vu, en principe, à la dernière fois, parce que les deux derniers versets du chapitre 3, si vous étiez là, forment une prière. Paul prie aux Thessaloniciens, je le lis, « Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Donc, au verset 12, Paul prie pour que les Thessaloniciens puissent mieux connaître l'amour de Dieu et mieux s'aimer les uns les autres. Et au verset 13, qu'ils soient irréprochables, le mot qui est cité là et qui va revenir, c'est la sainteté, dans la sainteté. Donc, le texte de ce soir fait suite à cela, mais dans l'ordre inverse, parce que du verset 1 au verset 8, il part de la sainteté, et du verset 9 au verset 12, Paul, 8-13, pour passer 12. Voilà. Voilà, donc il n'y avait pas que Valentin. Il parle donc de l'amour. Bon, ça c'est pour avoir la structure. Hein. Donc les deux sujets, c'est la sainteté d'une part et l'amour d'autre part. Le verset 1. Paul a dit que quand il était avec les Thessaloniciens, il les avait déjà instruit pour savoir comment ils devaient vivre, comment se conduire, comment plaire à Dieu, et il constate que c'est ça qu'ils font. Donc il est content. Mais il dit, au nom du Seigneur Jésus, je vous demande de marcher à cet égard de progrès en progrès. La Bible du Sommeur dit, faites toujours plus de progrès. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas statique, on peut bien dire, je suis arrivé, tout au long de notre vie, on va progresser. Je vais revenir à ce terme tout à l'heure. Donc, il est content de voir ce qu'ils font, mais en même temps, il demande à ses frères et sœurs à Thessalonique de progresser encore. Et il dit, ce qui est intéressant, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » C'est important, ce n'est pas simplement les idées de Paul, ce sont les idées de Jésus. Je me souviens la première fois que les Jésuites ont fait un forum Veritas. C'était à Lille, il y a à peu près 5 ans. Et une de nos intervenantes était Georgine Dufoy, donc ancienne ministre. Et je me souviens, je me promenais avec elle dans la rue, entre là où elle avait, je sais pas, on s'était vus pour aller à la salle. Et puis, elle parlait beaucoup. Et je me souviens d'une chose qu'elle a dit. Oh, moi, je parle de ce que le Seigneur veut pour nous. Et si les gens ne sont pas d'accord, voilà ce que je dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si vous avez un problème, il faut voir ça avec lui. Et j'ai trouvé ça intéressant comme remarque. Donc, c'est exactement ça que l'on voit au verset 2. Nous avons donné ces préceptes de la part du Seigneur Jésus. Et en une phrase, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Certaines traductions disent « La volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. » Donc, la première chose à se dire, tout le monde se pose cette question, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans tel ou tel domaine? Mais là, on n'a pas à discuter. La volonté de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. Alors là, on le sait. Même si on ne sait rien d'autre, là, on sait. C'est notre sanctification. Mais que veut dire la sanctification? La sanctification. Ce petit schéma peut vous aider. En tout cas, cela m'aide à bien comprendre le sens de sanctification. Parce qu'il y a trois mots qui sont souvent utilisés dans le Nouveau Testament. Il y a le mot justification, le mot sanctification et un mot glorification ou entrer dans la gloire, enfin des termes comme cela. Et tout cela, c'est le salut. J'anticipe un peu, parce qu'au chapitre 5 et le verset 9 de 1 Thessaloniciens, Paul dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, Ils avaient connu le salut, ils étaient sauvés. Mais par rapport aux autres termes un peu théologiques pour le changement en nous, la rédemption, la justification, etc., le salut est beaucoup plus large et concerne à la fois le passé, le présent et le futur. Juste rapidement, il y a quelques versets que j'ai cités pour vous donner un exemple. Dans Éphésiens 2, verset 8, il dit « C'est par la grâce que vous avez été sauvés ». Certaines Bibles disent « Vous êtes sauvés », mais l'original grec est bien un passé, « que vous avez été sauvés ». Alors que dans 1 Corinthiens 1 et le verset 18, 1 Corinthiens 1 et le verset 18, est dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Là, on aurait pu le traduire « pour nous qui sommes en train d'être sauvés ». Et je ne me souviens plus quelle traduction de la Bible, mais carrément « nous qui sommes sur la voie du salut ». Donc c'est « en train d'eux ». Okay? Ça, c'est un présent. Au verset 18. Alors que dans 1 Pierre 1 et le verset 5, nous avons « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc là, c'est un salut, futur. Et le salut couvre tous ces aspects. Okay. Passé, présent et futur. La justification, c'est quand nous avons cru en Jésus et Dieu nous a déclarés justes. C'est fait, c'est une fois pour toutes, c'est, je mets, instantané. Le moment que je crois, je suis justifié, je suis pardonné. La glorification future sera instantanée. Dans 1 Corinthiens 15, on parle de la dernière trompette, en un clin d'œil, enfin, on sera changé, transformé. Soit parce que c'est la fin du monde, soit parce que c'est le retour du Seigneur Jésus, c'est instantané, on passera de ce corps que nous avons actuellement à notre corps glorieux. Et encore, c'est instantané. Mais entre les deux, il y a tout un processus de sanctification qui dure toute notre vie. À partir du moment où on se convertit jusqu'au moment où on sera vraiment auprès du Seigneur. Donc c'est tout un processus. Et c'est de là qu'il parle dans 1 Thessaloniciens 4. Si vous voulez aussi une dernière petite indication sur les trois, au niveau de la justification, Dieu nous sauve de la culpabilité parce que nous sommes pardonnés. Par la sanctification, il nous délivre peu à peu de la puissance du péché. Et dans la glorification, on est délivré complètement, totalement, à jamais. Donc, je pense que ce petit schéma nous aide, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Nous ne sommes pas sauvés par la sanctification. Nous sommes sauvés parce que Jésus est mort pour nous. Mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut faire son travail de transformation en nous. Et ça dure toute la vie. Alors, dans ce texte, au niveau de la sanctification, c'est surtout la sexualité qui est mise en cause. Et là encore, on est dans le domaine de la sanctification. J'insiste, parce que depuis toujours, ça fait 20 siècles, il y a des chrétiens bien pensants qui veulent révéler quelque part le moyen d'éviter cette sanctification dans la durée. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les églises de sanctification. Et ils prêchaient le fait que si on se donnait vraiment au Seigneur, mais une fois pour toutes et complètement, on était délivré de tout péché. J'ai même rencontré un pasteur quand j'étais à Nancy, il était en Lorraine, qui m'avait dit quelque chose du genre, ça fait 5 ans que je n'ai plus péché. J'étais avec un collègue qui m'a dit en sortant qu'il avait envie de lui donner une baffe pour voir si ça allait continuer. Mais bon. Donc, on propose. propose ça. Ou bien une deuxième expérience spirituelle, ou je ne sais pas quoi, pour dire on prend l'ascenseur plutôt que les marches. Et c'est la même chose dans tous les domaines de la sanctification, y compris la sexualité. Donc, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que vous absteniez de la débauche. Débauche, pornéa, qui veut dire tout ce qui est péché sexuel. Il va expliquer un petit peu les différents termes. Et je vais expliciter. Verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps pour la sainteté et l'honnêteté. J'aime bien le deuxième mot aussi, l'honnêteté, parce que ça veut dire qu'on est intègre quelque part. Le verset 5, sans se livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu, ça c'est une citation de l'Ancien Testament d'ailleurs, dans les psaumes et dans Jérémie, les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais connu une sexualité aussi débridée, ça a toujours existé, depuis tous les siècles, depuis le temps de Jésus, tout au long des siècles, jusqu'à aujourd'hui. C'était caché, pas caché, c'était plus ou moins accepté, etc. Mais ça a toujours existé. Il ne faut pas penser qu'on est dans une situation complètement inédite. Verset 6. Dans ma Bible, c'est traduit « Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. » Et certains vont penser « Ah voilà, il part d'argent. » Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une très bonne traduction. C'est en fait ne pas causer, le Sommeur qui dit, pas causer du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Donc on peut penser surtout à l'adultère, par exemple. On fait du tort à quelqu'un par l'adultère. Donc la fraude ou la cupidité, c'est dans les affaires sexuelles. Et la motivation forte, pour moi, pour les chrétiens, c'est que le Seigneur va intervenir pour faire justice à la personne lésée. Je pense que la traduction dans la Bible de ce monde n'est pas extraordinaire. Quand on parle de « le Seigneur va tirer vengeance de ces choses », il va surtout faire justice aux personnes lésées, parce qu'il sait ce qui s'est passé. C'est le verset 6. Et le verset 7 qui nous donne deux voies. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc il y a un choix. Mais je me suis dit, peut-être il vaut mieux être clair. Parce que dans la traduction encore du Sommeur, il parle de... Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Que comporte cela? Qu'est-ce que ça veut dire, pratique dégradante, selon la Bible? J'ai mis trois choses. Les relations hétérosexuelles en dehors du mariage. Je pense que... C'est sûr que si on pose la question autour de nous, des gens ne vont pas dire que c'est forcément dégradant. Mais c'est dans un cadre qui n'est pas celui que Dieu a prévu pour le bien-être des êtres humains. Si on lit 1 Corinthiens 6, et les versets 18 et 20... je trouve que c'est assez intéressant. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La motivation pour ne pas aller dans ce sens-là, pour les chrétiens en tout cas, c'est: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Alors, donc, il dit,
celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps, parce que quelque part, je pense que l'acte sexuel laisse des traces dans la mémoire, dans la pensée. Ce n'est pas un acte anodin. Ça laisse des traces. Et parce que cela laisse des traces, cela peut aussi affecter, même par la suite, d'autres relations qu'on peut avoir. Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu peut, dans une grande mesure, guérir les souvenirs, mais je trouve que avec l'âge, je regarde par exemple les personnes que j'ai connues quand j'étais étudiant, et je peux dire que presque tous les amis que j'avais qui n'étaient pas chrétiens vivent souvent seuls, divorcés, séparés, c'est triste. Donc les chrétiens que j'ai connus sont toujours ensemble et ont de bonnes relations dans le couple. Donc dans la durée, il n'y a pas mieux que de suivre le plan du Seigneur. Je ne dis pas que c'est une règle absolue pour tout le monde. Je parle d'une tendance lourde quand même. Deuxième pratique dégradante, les relations homosexuelles, même, je suis obligé d'ajouter maintenant, même en cas de mariage, ça ne change rien. Parce que l'homosexualité n'est pas selon le plan de Dieu non plus. C'est presque une évidence si on prend un petit peu de recul. Et puis la troisième chose, c'est tout ce qui est pornographie, y compris les rêveries, les fantasmes, tout ce qu'on peut avoir. Et par contre, s'il est vrai que j'ai parlé du haut de mon âge pour dire je revois des gens autour de moi et ceux qui sont chrétiens, qui sont restés fidèles dans un couple et que ça leur apporte beaucoup, la question des tentations sexuelles, de pornographie, ça c'est un luxe qui continue toute sa vie. Donc il faut pas baisser les bras pour dire bon, quand j'aurai 30 ans, c'est fini. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est une lutte, c'est un combat. Et avec Internet, ça devient si facile d'avoir accès à tout. On est dans l'intimité du foyer, personne ne sait. En ce qui me concerne, par exemple, ma femme, Marie, sait très bien qu'elle a le droit de venir regarder tout l'historique de mon ordinateur à n'importe quel moment pour savoir ce que j'aurais fait. Et je crois que c'est une certaine protection. Donc je ne fais pas n'importe quoi. Non seulement parce que je veux obéir à Dieu, mais aussi parce qu'on a besoin parfois de ce genre de protection humaine. En ce qui me concerne, le verset qui m'a fait le plus de bien, c'est dans les Béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et on sait que quand on est dans la lutte, ou quand on a cédé à la lutte, on ne voit plus Dieu. Et si on veut voir Dieu, si on veut avoir ce bonheur de marcher avec lui, ça vaut le coup de lutter, confesser quand il faut, de revenir à lui et de continuer à lutter pour pouvoir marcher avec Dieu. Donc ça, rapidement, c'est ce que je mets dans les pratiques dégradantes. Alors que vivre d'une manière sainte, je pense que c'est clair, c'est le mariage. Hébreux chapitre 13 et le verset 4 le dit très clairement. Hébreux 13 et le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, il y a deux cas de figure. Les débauchés, c'est tout ce qui est hors mariage. Et l'adultère, c'est ce qui est dans le mariage. C'est la désobéissance sexuelle, soit hors ou soit dans le mariage. Et que le mariage soit honoré de tous. Pour mémoire,
je donne une définition de mariage. Donc, c'est vivre dans la fidélité, d'un amour et une confiance mutuelle. Et après, une décision publique. Donc, le mariage devant Monsieur le maire, par exemple, en France. Et donc, c'est vivre dans la fidélité, d'un amour et une confiance mutuelle. Et je pense que quand il dit que le mariage doit être honoré, c'est que c'est vraiment quelque chose qui ça fait la gloire d'un être humain de garder sa parole. Nous sommes créés à l'image de Dieu, capables de penser, réfléchir, aimer, mais aussi parler. Et le fait de parler veut dire que devant un public, que ce soit laïque ou que ce soit dans une église, on va dire « oui, je me marie avec cette personne et je tiens ma parole ». Parce qu'on est dans le même registre que Dieu avec ses alliances qui disent « oui, il reste fidèle à son alliance ». Et la fidélité à une alliance ne peut pas se faire si le langage n'existe pas. Parce que le langage, c'est ça qui nous permet de dire « oui » et d'y tenir. Et c'est pour cela, certains ont peut-être déjà entendu cela, mais quand j'ai fait un débat Forum Veritas à Nice, mon challenger, me dit toujours l'administrateur de Forum Veritas, mon challenger a dit à un certain moment, oui, on peut donner sa parole, mais on peut la reprendre. Et j'ai vu que la salle a bougé un petit peu. La salle composée de chrétiens, non-chrétiens, n'aimait pas cette notion. Oui, on peut donner sa parole pour la reprendre. Ce n'est pas à notre gloire. Et le fait donc, de donner sa parole, je sais qu'on va tenir, c'est très bien. Je sais très bien que si jamais j'étais complètement malade, je ne pouvais plus bouger, que Marie resterait là, et vice-versa. J'ai connu un frère en Christ, sa femme est tombée malade, alors qu'il était patient, aussi âgé que ça, et pendant des années, il s'occupait d'elle. Après, quand il était hospitalisé, il allait très souvent à l'hôpital pour la voir, mais il est resté fidèle jusqu'à sa mort, en fait. Et c'est notre gloire en tant qu'humain de le faire. Parce que là, on ressemble à Dieu qui reste fidèle à ses promesses. Alors, comment expliquer cela? Le verset 8. « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Il ne s'agit pas d'être moralisateur, il ne s'agit pas d'être légaliste, ni pragmatique, comment vivre une bonne vie. À mon avis, avec tous les débats que l'on peut avoir sur la légalisation du mariage homosexuel, toutes sortes de choses comme ça, la seule chose que nous pouvons dire en tant que chrétien, c'est tout acte sexuel en dehors du mariage est un péché. Ça peut être légal, mais c'est un péché. C'est la même chose, d'ailleurs, pour l'adultère, en dehors du mariage homosexuel. La loi ne condamne pas quelqu'un qui a commis l'adultère, mais c'est un péché. La loi ne condamne pas quelqu'un qui est un menteur, au moins dans la vie courante, hein. Si on signe un contrat, c'est autre chose, mais dans la vie courante, mais c'est un péché. Et je crois qu'il n'est pas bien non plus, en ce qui concerne certaines choses comme l'homosexualité, de parler en termes de guérison non plus. Une association qu'il a faite à Toulouse, il y a une grande manifestation devant l'église, parce qu'ils ont dit que l'homosexualité n'est plus vue par les psys comme une maladie. Donc, on ne va pas dire que c'est une maladie, on ne va pas dire que c'est illégal, mais c'est un péché. Et je crois que cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui nous permet de revenir un peu à la même situation que les apôtres dans l'Empire romain, et donc de clairement dire, voilà, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu. Je passe à la deuxième partie, donc 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même entrée en matière pour la première partie. Les mêmes mots en grec d'ailleurs. C'est très bien,
vous n'avez pas besoin que je vous en parle. Vous avez appris de Dieu comment aimer, vous aimer les uns les autres. Mais, à la fin du verset 10, nous vous exhortons à abonder toujours plus. Ça veut dire aller toujours plus loin. Exactement le même terme en grec que la fin du verset 1. Marcher de progrès en progrès. Parce que la sanctification qui est progressive. Mais le verset 11 est curieux. Je ne sais pas, si vous étiez à l'église et le pasteur disait « Ben, occupez-vous chacun de ses propres affaires. » Je pense qu'on s'attend à ce qu'on dit « Occupez-vous les uns des autres. »« Aimez-vous les uns les autres. » Mais pourquoi il dit cela? Pourquoi il dit qu'il faut vivre tranquille, en paix, s'occuper de ses propres affaires et gagner sa vie en travaillant? Je pense qu'il y a déjà une première réponse dans les Proverbes. Proverbes chapitre 25, le verset 17, il dit: mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Il y a des limites. Si on est tout le temps fourré les uns chez les autres, à la limite, on va dire, oh, c'est bien de passer du temps les uns avec les autres, mais il ne faut pas exagérer. Mais pourquoi on le fait? Là, c'est un peu mon interprétation de ces versets, parce que Paul les demande de se conduire de telle façon qu'ils ont le respect du non-chrétien et afin que vous n'ayez besoin de personne. Je pense qu'au fond, c'est parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et si... Et il faut se poser la question, est-ce que quand j'entends « aimez-vous les uns les autres », au fond de moi-même, je suis en train de dire « c'est bien, je veux que les autres m'aiment » ou est-ce que je suis en train de dire « c'est bien, il faut que j'aime les autres » Et si on dit quelque part « je veux que les autres m'aiment », c'est parce que finalement, on n'est pas mûr, on n'est pas adulte, on ne se prend pas en charge, on ne s'occupe pas de ses propres affaires, on ne travaille pas de ses mains, on a besoin des autres. Dans ce sens, nous avons tous besoin les uns des autres, je ne dis pas le contraire. Mais le but, c'est de dire, soyons adultes, soyons grands, pour pouvoir aider les autres. Je sais, à un certain moment, il y avait un jeune dont je m'occupais à Nancy, quand j'étais pasteur là-bas, il s'appelait Henri en plus, très près du chant de... quel est le chanteur qui est? Bon, je m'appelle Henri. Bon, c'est un chant... C'est Palawan. Voilà, Palawan, merci. Palawan. Puis, il avait énormément de problèmes sur le plan social, il n'y avait pas de travail et tout ça, et je lui disais toujours, Henri, je ne te demande pas d'être plus spirituel, parce qu'il venait toujours, comment je peux être plus spirituel? Je te demande simplement d'apprendre à travailler de façon continue, à ne pas avoir autant besoin tout le temps d'être entouré. Certes, il faut aller de progrès en progrès, mais si chacun dans l'église était comme ça, on ne s'en sentirait pas. Donc, je pense que le Seigneur nous dit qu'une partie de l'amour, c'est aussi de savoir s'occuper de soi-même de telle façon que l'on puisse aimer les autres. Donc voilà. En résumé, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, qui est une vie consacrée à Dieu en vivant pour sa gloire. Mais du coup, ce sera la meilleure vie pour nous. Là, j'en suis convaincu. Ce que Dieu
notre Créateur nous propose, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et Satan est le père, est menteur, le père des mensonges, il va dire tout le contraire. Donc à nous de dire, oui, est-ce qu'on me base sur la volonté de Dieu, sur sa révélation, ou sur ce que dit le diable? Je pense que foncièrement, on le fait parce que Dieu nous le demande. Mais c'est une, à mon avis, c'est aussi une bonne motivation quand on dit, c'est aussi ce qui est de, vraiment de mieux pour nous. Vraiment, fondamentalement. On a peut-être le temps pour deux, trois questions, hein, s'il y a des questions sur ce texte. Ça, aux yeux de certains, c'est un texte très polémique. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question? En attendant, je vais dire aussi. Deux livres dans l'excellente série. Question suivante. Sexe et désir, fruit défendu ou cadeau de Dieu. Et l'autre, le travail, malédiction ou valeur chrétienne. Donc par rapport à la deuxième partie du texte, parce que si on voit le travail uniquement comme une malédiction, on ne va pas s'y donner avec autant de plaisir pour servir le Seigneur. Donc, j'ai recommencé ces deux livres-là.
Est-ce que tu peux parler un peu plus de l'application de ce passage pour ceux qui sont au chômage, qui aiment bien travailler, mais qui ne peuvent pas
trouver? Oui. Bon, le texte n'en parle pas directement. Hein. Ouais. Ça, c'est
plus large. C'est sûr.
Je dirais que ce texte, si on le prend au pied de la lettre, nous dirait de ne pas rester passif dans ces situations, de faire tout ce que l'on peut pour trouver un travail. Donc, ce n'est pas garanti. Donc, il y a beaucoup de galères, on sait. Mais je pense que ce texte va dire « Occupez-vous de vos affaires, faites ce qui est sérieusement possible, sachant que peut-être ça ne vous tira pas, mais que le travail, c'est de chercher du travail. » Il y a une grande distinction. Je ne sais pas, la Bible du Sommeur traduisait vivre dans la paix. Je pense que ça, c'est beaucoup plus l'attitude de fond, alors que s'occuper de ses propres affaires, c'est l'activité qui va avec. Hein. Ce sont des trois termes qui se suivent, qui ne sont pas tellement différents les uns des autres.
Hein. Oui. Au verset 6, on parlait des personnes disent envers son frère de fraude et d'éditer dans les affaires.
Oui.
Vous me demandez, enfin, tu as fait le lien directement avec la sanctification dans la sexualité, tout ça.
Ouais, ouais.
Et me demandez si c'était, si c'était la traduction originale qui suggérait ça ou par rapport aux commentaires.
D'une part, je pense que c'est assez clair dans l'original, mais c'est surtout parce que tout le texte ne parle que de cela. Le verset 3, 4, 5. 7 et 8, alors pourquoi il changerait de sujet au verset 6? Donc la fraude ou la tromperie, ou la cupidité ou la convoitise dans les affaires sexuelles, ça suit automatiquement par rapport au reste. Hein.
C'est le terme qui
paraît bizarre. D'ailleurs, quand on prend d'autres versions de la Bible que la version seconde, c'est très clair. Hein.
Gracias. 21 à réviser, en fait.
Ah oui.
Les nouvelles secondes ont révisé. Et
mettre, ils ont révisé pour mettre ça. Celui-là, devant les yeux.
Porte atteinte à ses droits. Portée atteinte à ses droits.
Ah oui.
Quand Victor a son prêtre, vous porte atteinte à ses droits.
Oui. Parce que chaque infidélité ou chaque adultère ne concerne pas que les deux, il y a les innocents autour, hein, que ce soit le conjoint, les enfants, etc., qui sont touchés par cela, qui sont lésés. Je crois que la Bible du Samuel le dit.
Est-ce que je reviens sur le travail occupez-vous de vos propres affaires, ça contredit pas un peu le. Dans Actes, quand au contraire les chrétiens au début, il est dit que ils sont tous ensemble en train de mettre tout en commun, etc. On a l'impression que c'est l'inverse de s'occuper de ses propres affaires.
Oui. Il y a beaucoup de débats pour savoir s'ils avaient bien fait de tout mettre en commun à ce point-là, hein, parce que au moins par deux fois, ils ont dû faire des collectes d'argent pour les Juifs à Jérusalem. Est-ce que c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas bien géré leurs affaires, au fond. Mais sans tomber dans cette polémique-là, je pense que c'est toute une question de mesure. Parce que, par exemple, quand on prend Galates 6, on a par exemple le verset 2, porter les fardeaux les uns des autres. Et donc chapitre 6, verset 2. Et puis verset 5, car chacun portera ses propres fardeaux. Alors soit Paul ne savait pas ce qu'il avait écrit trois versets auparavant, ou bien c'est tout dans la mesure en fait. Et je pense, j'ai vu parfois dans une église, quelqu'un qui pensait que c'était son droit que tout le monde s'occupe de lui, en quelque sorte. Donc ce n'est pas un droit, ça fait partie, on porte les fardeaux, mais on voudrait aussi que les gens apprennent à porter leur propre fardeau. Parce que certes, personne ne peut dire « je suis parfait, je suis arrivé, je n'ai pas besoin des autres ». Mais on sait très bien, quand on regarde un groupe de personnes, il y en a qui assurent mieux et qui aident les autres. Et donc je pense que Paul est en train de dire, mais essayez d'être du côté de ceux qui assurent pour mieux aider les autres.
Merci beaucoup, David. On va passer à...